Bonjour à tous, à ceux que je retrouve. Donc, vous l'avez compris, peut-être, vous avez le PowerPoint. Ce matin, nous allons méditer sur l'importance d'être prêt à toute bonne œuvre. Et donc, je me suis inspiré, enfin, le Seigneur m'a mis ça sur le cœur, ça tombait dans ma lecture d'ailleurs, sur la lettre de Paul à Tite, qui fait partie des épîtres qu'on appelle pastorales. Donc, chronologiquement, cette lettre de Paul à Tite, elle se situe entre la première et la deuxième épître de Paul à Timothée, qui a été écrite environ en l'an 65. Qui est donc ce Tite? C'est un jeune serviteur de Jésus-Christ, un enfant spirituel de l'apôtre Paul, qui était d'origine païenne et qui a trouvé le Seigneur à travers le ministère de l'apôtre. Et il l'a laissé donc en Crète, comme il le dit, pour que dans chaque ville, dans cette île qu'ils avaient évangélisée, que dans chaque ville, il établisse des responsables d'église qu'on appelle les anciens. Martin Luther, le réformateur, a dit ceci, il a dit que c'est une épître courte, mais c'est la quintessence de la doctrine chrétienne. C'est le résumé du savoir-vivre chrétien. Je pense tout d'un coup qu'il faudrait... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aller mettre le son dans la garderie, dans la nurserie, s'il vous plaît? Parce qu'on me l'a signalé. Tout d'un coup, je... Merci, Mathieu. Donc, le titre qu'on peut donner aussi à cette prédication de ce matin, c'est le plaidoyer de l'apôtre Paul pour une vie riche en œuvres bonnes. C'est un véritable plaidoyer. Ce sont aussi dans cette lettre aussi des leçons pratiques pour ces églises de Crète où il y avait, d'après le contexte, beaucoup de laisser-aller dans la société ambiante. Et on pourrait dire que ce qui se vivait sur cette île de Crète n'a pas beaucoup changé dans le monde, dans la société dans laquelle nous vivons. Donc, dans Tite 3, verset 8, il y a cette, Paul, je le relis, cette parole est certaine, et je veux que tu insistes là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à exceller en œuvre bonne. Sommes-nous de ceux qui avons cru en Dieu? Si nous nous reconnaissons comme ceux qui ont cru, eh bien, le Seigneur nous appelle à exceller dans la pratique d'œuvre, comme Jean-Yves nous l'a rappelé tout à l'heure, non pas pour être sauvé, puisque les œuvres de quiconque ne peuvent nous sauver, mais parce que nous avons cru. Et parce que nous sommes sauvés, nous sommes appelés à pratiquer des œuvres bonnes. On le lira tout à l'heure. Alors, le premier exemple, ou le contre-exemple, le premier, c'est au verset 16. Au verset 16, il nous est dit, et au verset 10, « Parmi les circoncis, donc là c'était parmi les juifs, beaucoup d'indisciplinés devint discoureurs et de séducteurs. Des gens... que Paul, après, dont Paul dit qu'ils sont incrédules, verset 15. Pourquoi sont-ils incrédules? Parce que leur intelligence et leur conscience sont souillées. Des gens qui font profession de connaître Dieu, mais qu'ils renient par leurs œuvres. Et Paul va jusqu'à dire qu'ils sont odieux, rebelles à la parole de Dieu et incapables d'œuvres bonnes. Ben oui, c'est normal. Si on est séparé de la source de l'amour qu'est notre Dieu, eh bien, on est incapable d'œuvres bonnes. Et même l'amour qu'on peut avoir pour le prochain, s'il n'est pas relié à la foi vivante en Dieu, eh bien, il manque une dimension. Alors, il est vrai que des non-chrétiens dans ce monde, dans cette société, nous étonnent parfois par une vie, on va dire, d'œuvres. De charité, d'amour, d'aide, d'entraide. Et on le voit autour de nous. Mais il ne faut pas oublier que si certains, ou on va dire peu de gens, font des bonnes œuvres gratuitement. Beaucoup le font, il faut quand même le reconnaître, pour obtenir des mérites, pour avoir une place au paradis. S'ils pensent que plus là, ça pèsera dans la balance, ils vont par leurs grands efforts et faire plaisir à Dieu, donc il pardonnera leurs péchés en vertu de ce qu'ils auront accompli. Grave erreur, si on lit, on se réfère à Éphésiens chapitre 2, ce texte magnifique où Paul parle que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, dit Paul. Ce n'est pas par les œuvres, parce qu'autrement on va se glorifier. Et ce sera l'homme qui va se sauver lui-même. Folie et contraire à l'Évangile. Car, et après Paul dit, nous sommes, dans Éphésiens 2:10, pour ceux qui ont une Bible, nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous y marchions, littéralement en grec, marcher. Et on voit juste avant ce verbe de marcher, au verset 2, autrefois vous marchiez dans vos péchés, selon le prince de la puissance de l'air, selon le cours de ce monde. On marchait selon le cours de ce monde. Aujourd'hui, si nous appartenons à Jésus-Christ, nous sommes appelés à marcher, non plus selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion, donc Satan, nous sommes appelés à marcher dans des œuvres bonnes, dans une direction complètement nouvelle. Et le mot grec qui parle de l'ouvrage, nous sommes son ouvrage, l'ouvrage du Christ, c'est poémia qui veut dire, qu'a donné en français le mot poème, ou chef-d'œuvre. Nous sommes son chef-d'œuvre, littéralement. Alors on a du mal, si ce n'était pas écrit, on pourrait, quand on voit notre vie, nos faiblesses, nos lacunes, on a du mal à le croire. Mais pourtant, c'est écrit. Donc nous devons saisir que Dieu, en Jésus-Christ, a fait de chacun de nous des chefs-d'œuvre. Et il est en train d'y travailler. Il y a encore du boulot, hein, enfin dans ma vie en tout cas. Je ne sais pas dans la vôtre, mais dans la mienne, il y a encore du travail. Mais le Seigneur, il veut se servir de nous. Et c'est encourageant. C'est John Stott, dans son commentaire de la lettre aux Éphésiens, qui raconte qu'à Cambridge, alors qu'il était étudiant en théologie, et qu'il a pris sa retraite, qu'un serviteur de Dieu qui s'appelait Paul Gibson, je n'ai pas l'honneur de connaître, mais donc c'était un homme, un serviteur, on va dire, très apprécié, et lors de sa cérémonie de revoir, alors qu'il prenait sa retraite, on a dévoilé un portrait de lui. Et dans son allocution de remerciement, il adressa un compliment bien mérité à l'artiste qui avait peint le tableau, mais il a dit cette phrase significative. « Je crois que dans l'avenir, ceux qui admireront le tableau ne demanderont pas « qui est cet homme ?» mais « qui a peint ce portrait ?» Et dans notre cas, en effet, ce qui compte, ce n'est pas tellement nous ce que nous faisons, mais qui transforme nos vies, qui, à qui revient tout l'honneur, toute la gloire. Et c'est vrai que dans nos vies, John Stott a écrit ça, il dit « Dieu a montré bien plus que son talent ». Des êtres haïssables, haïssant les uns les autres, vivant dans la boue du péché, bien Dieu est capable de transformer et de faire de nous des chefs-d'œuvre. Donc c'est encourageant. Le deuxième point de cet enseignement que je vous apporte, c'est au chapitre... il y a six fois, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, dans mon introduction, il y a six fois le mot « œuvre bonne ». Donc je prends ces six mentions en méditant simplement comme elles sont écrites dans le sens chronologique de cette lettre. Donc la deuxième mention, c'est au chapitre 2, verset 7, ou de la lettre à Tite. Et donc il nous est dit « Exhorte de même les jeunes gens à se montrer équilibré ou sensé à tous égards, en te montrant toi-même un modèle d'œuvre bonne et en donnant un enseignement pur, digne. » Être toi-même un modèle d'œuvre bonne. Donc, il s'agit, comme je l'ai écrit, de commencer par nous-mêmes. Et ça, c'est un défi aussi n'est-ce pas? C'est commencer par soi-même. Parce que on ne peut pas amener les autres plus loin qu'on a été soi-même. Et Paul dit à Tite, ben, commence par toi. Montre-toi toi-même en tant que responsable et de formateur d'autres responsables. Montre-toi toi-même par ta vie, par tes actions. Montre la cohérence entre ta foi, ce que tu crois, et ce que tu vis. Et la traduction du Semeur a traduit pour les jeunes gens, mener une vie équilibrée. Et je crois que ce n'est pas seulement pour les jeunes gens. Pour nous tous, à quel âge que nous soyons, nous sommes appelés à garder un équilibre. Justement, équilibre entre ce que nous croyons et ce que nous faisons. Il ne faut pas qu'il y ait autant que possible d'abîmes ou de contradictions. Et c'est Jacques, dans son épître, qui dit ceci, Jacques, chapitre 2, versets 17 et 18, que je lis, « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi par mes œuvres, je te montrerai ma foi. » Donc, on ne doit pas séparer l'un de l'autre. C'est quelque chose qui va ensemble. Et aussi, j'ai trouvé un outil que Dieu nous donne. L'outil que Dieu a donné à tous ses serviteurs, et c'est dans 2 Timothée 3,17, c'est juste on tourne une page de notre Bible en arrière, et on arrive à 2 Timothée où Paul dit aussi à son fils spirituel, qui s'appelait Timothée, il lui dit, dès ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut. Et il lui dit plus loin, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, redresser, et écoutez bien la suite, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit propre ou soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Donc, pour m'adapter, me préparer à toute œuvre bonne, je dois puiser dans le Saint-Livre, la parole éternelle de Dieu, on va dire les vitamines, les forces qui vont me donner l'énergie pour, dans cette société, prendre modèle sur ceux qui ont marché avant nous et surtout sur notre Seigneur Jésus-Christ, dont elle est le portrait, n'est-ce pas? Et donc, toutes ces recommandations, dit Paul, donc, ont un but. Au verset 10, je reviens à Tite 2, verset 10, il est dit, « En tout de montrer une parfaite fidélité et de faire honorer en tout la doctrine ou l'enseignement de Dieu, notre Sauveur. » Il faut que nous puissions, comme a dit aussi, a traduit la traduction du Semeur, rendre attrayant l'enseignement de Dieu. Et il sera attrayant dans nos vies que dans la mesure où on va se mettre au travail, conduit par l'Esprit du Seigneur, bien entendu. Ensuite, je passe à la troisième mention d'œuvre bonne, c'est dans le chapitre 2, verset 14, ce texte que Jean-Yves nous a lu dans le repas du Seigneur. La grâce de Dieu a été manifestée. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est le point de départ de tout. Et si dans ma vie, la grâce de Dieu a été manifestée, eh bien, je ne peux pas rester le même, ce n'est pas possible. Si je me suis tourné un jour vers le Seigneur Jésus-Christ, vers le Dieu vivant, eh bien, il y a forcément un grand changement qui s'est opéré dans ma vie, ou qui est en train de s'opérer, parce qu'on ne se convertit pas toujours en un jour, il y a du travail. Eh bien, la grâce de Dieu qui s'est manifestée en Jésus-Christ, elle produit des effets, et à la fin de toute cette description de la grâce, je vous encourage à la relire à la maison, ce verset 14, qui nous rappelle que le Seigneur s'est fait un peuple qui lui appartient. Et c'est la même parole qui a été dite, si vous vous souvenez, lorsque le peuple d'Israël était libéré de l'esclavage d'Égypte, et au pied du Sinaï, Dieu a dit à Moïse ces paroles très fortes aussi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, c'est dans Exode 19, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume, une nation sainte. Dieu veut un peuple qui se différencie des autres et qui peut, à travers sa connaissance, sa relation avec lui, montrer qu'il appartient à ce Dieu qui délivre, qui sauve, comme il l'a fait pour les Israélites il y a plusieurs milliers d'années. Aujourd'hui, Dieu veut encore se faire un peuple qui lui appartienne et qui soit, il est dit, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Alors vous voyez, avant d'être zélé, il faut être purifié. Il faut être purifié. Et ça prend aussi un certain temps. Et le Seigneur continue à nous purifier sans cesse, à nous élaguer, à nous émonder de tout ce qui peut faire de l'ombre, ce qui peut faire tache aussi, comme on dit. Notre zèle ne doit pas venir de notre ancienne nature. Et ça veut dire beaucoup de choses. Paul dit aussi à Timothée, aussi dans la deuxième, il prend l'image de la grande maison. Il dit dans une grande maison, et ça nous parle de l'Église. Ça nous parle de l'Église, cette grande maison. Il dit, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi en bois et en terre. Les uns sont pour un usage noble, les autres pour un usage vil. Si donc quelqu'un se purifie, donc ça c'est notre boulot, nous purifier, c'est-à-dire en demandant pardon à Dieu quand nous les honorons, quand nous péchons. Si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase d'un usage noble, sanctifié, utile à son maître, propre à toute œuvre bonne. Propre à toute œuvre bonne. Donc que nous soyons ces vases propres à toute œuvre bonne, en tant que chrétien personnel, mais aussi en tant que communauté. Parce qu'il est question d'un peuple. Donc ce peuple, c'est donc l'Église, l'Assemblée de Jésus-Christ. Ouf, quelque part, ça nous fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul. On n'a pas tous les dons. Il y a un tas de choses qu'on ne peut pas faire tout seul. Et on fait partie, donc ce peuple est appelé aussi, vous savez dans la Bible comment, il est appelé un corps, hein, le corps de Christ. Donc un corps à plusieurs membres. Et on se complète. Personne ne peut dire, moi j'ai pas besoin de toi, dit Paul. Hein. Ça c'est l'orgueil de dire, allez moi je me débrouille, je me suffis à moi-même. Attention, personne ne se suffit à lui-même dans l'Église. Et on a besoin de chacun, du plus jeune converti comme au plus ancien, que du plus chevronné. On a tous besoin les uns des autres pour avancer. Et voilà, ben Dieu se sert même des enfants. Dans l'église de Belay où sont nos enfants, eh bien ils ont chaque, je donne un exemple, hein, régulièrement, eh bien ils prennent les enfants de l'école du dimanche. Et les jeunes, les ados, et tout le monde y va, et quelques mamans qui sont disponibles dans la journée, et ils vont dans les maisons de retraite, une ou deux maisons de retraite de la ville, et s'ils oublient d'y aller, mais ils n'oublient pas parce qu'ils aiment y aller, on les rappelle, on leur dit, mais venez, quand c'est que vous revenez la prochaine fois, ils ont fait un petit groupe qui s'appelle Rayon de Soleil. Et Rayon de Soleil, maintenant, est connu, et voilà, ils vont chanter. Une ou deux fois par an, ils partent en mission dans ces maisons de retraite et ils apportent, les enfants préparent un petit dessin qu'ils ont fait avec un petit mot ou peut-être un verset biblique. Bref, ils vont courir vers ces personnes âgées, leur apporter avec joie ce qu'ils ont préparé pour eux. Ça, c'est un exemple, c'est des choses toutes simples qu'on peut faire qu'en église. De même, ben, on a vécu aussi à Noël dernier, Noël en fête, on a vu qu'on pouvait faire des choses, et Dieu voulant, on va recommencer cette fin d'année, donc on aura l'occasion de mettre la main à la pâte et de pratiquer des œuvres bonnes. Et c'est pourquoi Jésus a dit aussi à ses disciples, dans Matthieu 5, je l'ai mis ce texte aussi, il parle à ses disciples, il leur dit, c'est vous qui êtes le sel de la terre, c'est vous la lumière du monde. Il dit plus loin, je suis la lumière du monde. Mais nous, on n'oserait pas dire, je suis la lumière du monde. Mais le Seigneur nous dit, c'est vous, c'est toi. Mais c'est vous en tant que communauté. Nous sommes appelés à briller. Quatrième mention, c'est dans Tite 3, verset 1. Paul dit « Rappelle-leur d'être soumis au gouvernement et aux autorités, d'obéir et d'être prêt à toute œuvre bonne, d'être prêt. » Alors, Dieu prépare, mais moi je dois être prêt. Dieu a préparé des œuvres, mais je dois être prêt. Et parfois, par inattention, par paresse, par crainte, ou une stupide fierté qui arrive, parfois, on n'ose pas aller vers l'autre. On n'ose pas, et on rate des occasions en or. Et combien de fois, je me suis dit, c'est pas vrai, t'as raté une occasion de faire du bien à quelqu'un. Il faut y aller, même si peut-être qu'on risque d'être maladroit, mais faisons davantage confiance à Dieu, enfin je me le dis à moi, parce que nous sommes appelés à pratiquer cette parole de Jésus, qui résume la loi et les prophètes. Vous avez tout ce texte de Luc 6, 31 à 38, où Jésus, par des verbes très parlants, il dit « Donne à quiconque te demande et ne réclame pas tes biens à celui qui les prend. » Ça, c'est dur, hein. Il y en a qui l'ont fait. Est-ce que je serais capable de le faire? Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. Ça, c'est l'essence de l'évangile. Cherchez le bien de l'autre. Je ne peux pas le faire par moi-même. Il me faut que j'aie l'amour surnaturel du Saint-Esprit qui vient de Dieu pour me pousser vers les autres. Et puis, finalement, Jésus dit, « Donnez, on vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on mesurera avec la mesure dont vous mesurerez. » Donc, cet amour de Jésus-Christ doit ou devrait être notre moteur. Être prêt. Je donne un petit témoignage que j'ai vécu lors de nos vacances, alors que c'était un samedi après-midi, dernier samedi après-midi, mes vacances, j'avais besoin de bouger, là, il fallait que je marche et que je bouge ce jour-là, et ma femme et ma fille devaient s'occuper des bébés, donc bon, moi, il fallait que je sorte, et je suis parti, notre fille habite au bord du Rhin, en Alsace, pas très loin du Rhin, donc je prends ma voiture, je dis, je vais me faire une balade au bord du Rhin. Et en partant avec ma voiture, j'arrive à un carrefour et pile, je tombe sur un gars qui traversait devant la voiture avec son pouce levé, et puis il avait un bidon d'essence, un bidon vide à la main, et il levait le pouce. Ben, je me suis dit, voilà, une occasion de faire du bien. J'avais mon temps, puisque j'étais en vacances, je me suis dit, bon, faut pas le rater. Alors je lui ai ouvert ma vitre et je lui ai dit, il me dit, oui, une panne, enfin... Alors bref, je l'ai amené à la station la plus proche, qui était quand même pas loin d'un kilomètre. Et puis après, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on te fasse? C'est peut-être de le ramener à sa voiture. Alors j'ai dit, si vous voulez, Alors il était cherché et je l'ai ramené donc à sa voiture. J'ai aucun mérite, parce que j'ai une voiture, j'avais mon temps, j'étais en vacances, je pouvais faire ça pour cet homme. Et puis je me suis dit, ben je vais prier que Dieu touche son cœur aussi. Et puis il était étonné, surpris que je fasse ça pour lui. Et puis je lui ai expliqué pourquoi, qui était l'auteur de ce bien. C'était pas moi, c'était le Seigneur. Et je lui ai donné donc une petite lecture. Bref, Dieu met sur notre route des fois des gens, voyez. Et quand l'occasion se présente, faut la saisir. Et je l'ai pas toujours saisie, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais Dieu met devant nous des occasions. Être prêt à toute œuvre bonne. Et nous aurons l'occasion aussi, en tant qu'Église, à la fin de l'année, d'aider pour la banque alimentaire. Voilà une occasion aussi de servir notre prochain parmi les pauvres à Grenoble, parmi les démunis. Et c'est une occasion en tant qu'Église aussi d'agir et de montrer que il y a l'amour de Dieu dans notre cœur. Et vis-à-vis des autorités, parce qu'il dit juste dans ce texte, rappelle-leur d'être soumis au gouvernement. Vis-à-vis de nos autorités, nous avons un témoignage de soumission, mais plus que de soumission, d'amour à rendre dans cette société où c'est l'égoïsme et la loi de la jungle qui règnent d'abord. Après, j'arrive au verset 8, C'est la cinquième mention dont on a parlé en introduction. Cette parole certaine, et je veux que tu insistes là-dessus afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à exceller dans les œuvres bonnes, voilà qui est bon et utile aux hommes. Donc en grec, le mot c'est se soucier, en faire une préoccupation de nos cœurs, et comme a dit quelqu'un avant nous, celui qui aime a toujours quelque chose à donner. Que nous aimions Dieu, que nous aimions notre prochain, eh bien le Seigneur va nous conduire pour donner à d'autres. Et beaucoup ont cherché l'excellence si on réfléchit un petit peu avant nous, hein, dans l'histoire, on va dire, un peu contemporaine, ou dans les deux derniers siècles, il y a eu Abraham Lincoln, qui était un chrétien engagé, et d'autres avec lui, il n'était pas seul, qui ont aboli l'esclavage. Voilà une œuvre bonne. Abolir l'esclavage, vous rendez compte? George Muller, qui a, lui, ouvert des orphelinats, c'était au 19e siècle, en Angleterre, où il y avait plus de 10 000 orphelins qui vivaient par la foi, à travers la foi de cet homme qui se mettait à genoux et qui attendait de Dieu la nourriture pour ces milliers d'orphelins, et chaque fois il y avait ce qu'il fallait, et quand ils n'avaient rien, eh bien ils se mettaient devant l'assiette, ils rendaient grâce à Dieu, et puis tout d'un coup ça sonnait à la porte et il y avait quelqu'un que Dieu lui envoyait au moment précis pour donner à manger. Ça vaut la peine de lire la biographie de George Muller, L'audace de la foi, si jamais. C'est un livre qui n'est pas trop épais et c'est magnifique de lire ce que Dieu a fait à travers cet homme. Et puis, il y a eu l'armée du salut. Hein, comment elle est venue? C'était parce qu'il y avait William et Catherine Booth, officiers de l'armée du salut. Enfin, ils sont devenus officiers, mais je veux dire, ils ont eu à cœur les pauvres dans les bas-fonds de Londres et les enfants qui traînaient dans les rues, dans la misère, et ils ont été vers ces enfants. Et ça a été la création de l'armée du salut. Et puis, il y en aurait bien d'autres. Il y a eu la fondation de la Croix-Rouge aussi, qui a été démarrée par des chrétiens, dont notamment Henri Dunant, pour venir aux victimes de la guerre. Et j'ai pas le nom en tête, mais il y en a peut-être qui l'ont ici. À New York, actuellement, il y a une mission parmi les enfants, je crois, dans les quartiers pauvres. Je ne sais pas si quelqu'un connaît ce nom. Ils ont écrit un bouquin, un livre là-dessus. Donc, il y a une mission. Wilson, c'est ça que tu m'avais dit qu'on... Hein? Bill Wilson, voilà. Donc, c'est quelque chose de contemporain. On peut acheter le livre. Moi, je ne l'ai pas encore lu, mais bon, ça viendra. Mais donc, vous voyez, il y a des occasions de servir les autres. Il y avait aussi une sœur qui était dans notre église, une championne de course à pied. Vous vous rappelez, il y a quelques années en arrière, Yana, une étudiante tchèque, était venue ici, qui faisait de la course à pied, qu'on a bien connue. Eh bien, elle a eu à cœur, là, dernièrement, de faire la course des 4000 marches, qui est dans l'Aigoual, au sud des Cévennes. Et elle a remporté cette course. Et très modestement, très humblement, elle désire simplement que ça soit pour la mission évangélique contre la lèpre. Vous connaissez peut-être le journal, la mission contre la lèpre. Voilà une œuvre bonne aussi qui est faite en faveur des gens qui sont rejetés, qui sont mis à l'écart de la société. Et donc, elle s'est dit, pourquoi ne pas courir pour cette mission? Donc nous avons tous des dons, des qualités, des capacités différentes, mais le tout c'est de les mettre au service de notre roi, de notre maître, notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà qui est bon et utile aux hommes. Et la dernière mention, c'est après Tite chapitre 3, versets 13 et 14. « Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres apprennent à exceller dans les œuvres bonnes pour subvenir aux nécessités urgentes afin de ne pas être sans fruit. » Dieu désire du fruit pour son Église et pour chacun de nous. Alors reconnaître ce qui est prioritaire. Alors, vous voyez, il y a les frais de voyage des serviteurs ou des missionnaires. Et nous avons des occasions aussi dans notre Église, par le biais des offrandes que nous faisons le dimanche aussi, de subvenir à ces choses prioritaires. Mais il y a aussi l'hospitalité. Il y a la confection d'habits. On voit ce texte, Nous avons dans notre église une sœur aussi qui confectionne des habits, peut-être plusieurs, mais au moins une. Et bref, les habits sont aussi c'est une façon aussi de faire du bien à quelqu'un qui en manque. Il y avait aussi, on le voit dans la Bible, dans le Nouveau Testament, l'aide aux croyants pauvres de Jérusalem. Dans 2 Corinthiens, chapitre 8, Paul a organisé une collecte pour les pauvres de Jérusalem et il a encouragé les jeunes églises en disant, ben, vous avez reçu les biens spirituels, maintenant aidez-les de vos biens matériels, venez à leur secours. Même si vous avez un petit peu, peu importe, les petits ruisseaux font de grandes rivières. Et donc, voilà, ben Paul a mis en route cette collecte lors d'une famine. Et on vous a fait passer sur Internet, je crois, cette semaine, le mail aussi de l'appel de la détresse de nos frères de l'Afrique de l'Est, la corne de l'Afrique de l'Est, où on sait qu'il y a 10 ou 12 millions, je crois, de personnes qui sont en train de mourir de famine. Alors bien sûr, il y a la guerre, bien sûr, il y a des injustices, et il faut prier pour eux, mais nous pouvons aider aussi matériellement ces gens déshérités par le biais de l'œuvre du SEL, Service, Entraide et Liaison, qui est une œuvre évangélique, donc on sait à qui on donne, et ce sont des gens sérieux, et voilà, ben c'est toutes des occasions que Dieu nous donne de faire du bien à des gens qui ont beaucoup, beaucoup moins que nous. Et ceci, eh bien, il nous est dit que de ne pas être sans fruit. Donc, il y a toutes sortes de manières. Et j'ai noté aussi l'hospitalité, l'accueil, la visite des veuves, des orphelins et des malades. Voilà encore. Il n'y a pas que des offrandes d'argent, mais il y a aussi des offrandes de notre temps, de notre amour, de bouger, d'aller à la rencontre de ceux qui en ont besoin. Donc, on a tout ça dans la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul priait aussi pour les chrétiens de Colosse. Il disait que vous portiez du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. Toutes sortes. Il y a toute une panoplie d'œuvres bonnes. À nous de trouver celles que Dieu met sur notre route. Donc que nous soyons créatifs par la grâce du Saint-Esprit, que Dieu mette sur notre cœur. Laissons Dieu, je veux dire, mettre sur notre cœur ces œuvres bonnes, que c'est lui qui les a préparées, n'oublions pas. C'est pas à nous de fabriquer quelque chose, mais il va nous mettre sur le cœur une pensée, un fardeau ou une idée. Et puis c'est là qu'il faut dire, ben, Seigneur, si ça vient de toi, j'y vais. Même si on se dit qu'on est peut-être mal préparé ou qu'on a peur, mais allons-y. Et cette semaine qui vient, nous commençons une nouvelle semaine, Dieu a certainement préparé pour chacun de nous au moins une œuvre bonne. Quelle sera-t-elle? Moi, je n'en sais rien. Mais lui, il le sait. Il est le maître. Il est le chef. Alors, on peut se sentir faible, et je conclue par là. Nous nous sentons faibles. Mais rappelons-nous, nous avons un maître au ciel, notre Seigneur Jésus-Christ. Dont Pierre a parlé dans Acte 10, 38. Il dit, vous avez entendu parler de Jésus de Nazareth, loin de Saint-Esprit et de puissance. Il allait de lieu en faisant le bien, guérissant aussi ceux qui étaient sous l'empire du diable. Mais il faisait le bien de lieu en lieu. Eh bien, je crois que c'est notre modèle. Et si on regarde à lui, eh bien, nous serons aussi, nous, entraînés dans ce chef-d'œuvre de Dieu. Et nous pourrons aussi, à notre tour, faire du bien. Nous sommes son chef-d'œuvre, créé en Jésus-Christ. Ça, c'est très important. Faut pas oublier ça. Créer chef-d'œuvre, pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ qui est le parfait, qui est le suffisant. Pour moi qui suis imparfait, insuffisant, il est le parfait. Alors, il faut qu'on le sache, comme on le médite ce matin encore, mais il faut qu'on le, non seulement le savoir, mais le croire. Et croire, ça veut dire obéir, se jeter à l'eau. Voilà, j'en ai assez dit. Il y aurait encore certainement beaucoup à dire là-dessus. Je vous propose simplement de terminer par la prière.